Donc voilà, je voudrais, donc vous avez peut-être vu à l'origine ce que j'avais fait comme titre, ce que j'ai proposé comme titre. Je crois qu'il est assez compliqué dans une première partie, instruire, etc., etc. Le milieu, ben vous le regardez, instruire le rapport affectif au lieu pour pouvoir savoir comment on passe d'un lieu habitable à un lieu, même comment on rend aimable tout lieu, même inhabitable. Et puis la vraie question qui va être celle que je vais essayer de traiter, autrement dit, qu'est-ce qu'un lieu hospitalier? Effectivement, à l'origine de ce titre, il y a d'abord le rapport à Denis Marthouset, et aussi d'ailleurs à ceux qui l'entourent, c'est-à-dire à Benoît Feydel, à Nathalie Audace, à tous les gens qui ont autour de lui tenté de faire précisément cette exploration de ce qu'était le rapport affectif au lieu. Mais effectivement, je dois aussi mettre ma communication, modifier ma communication en rapport avec le colloque lui-même. Donc, pas seulement la question sous-jacente au titre du colloque, mais aussi à la façon dont il s'est passé. Et donc, je partirai de l'idée que cela a provoqué chez moi une déstabilisation personnelle et aussi interpersonnelle. Une déstabilisation personnelle parce que finalement, ça m'a donné la conscience, ça m'a donné la conscience que finalement, je ne savais pas trop traiter cette question des affects, je ne l'avais pas vraiment prise au sérieux, j'avais tourné autour. Mais aussi, ça m'a donné une déstabilisation parce que ce colloque aussi est un colloque particulier, me semble-t-il, bien sûr, parce qu'il est vraiment un colloque devant les autres, un colloque qui a, par sa diversité, même à la limite par son étrangéité, c'est un colloque où finalement on doit penser devant des biologistes, des neurologues. Bien sûr, des praticiens, ça j'en ai l'habitude, mais quand même, avec toute leur diversité, il n'y a pas eu une seule position d'architecte, d'urbaniste, etc. Devant des artistes, devant des écrivains, et bien sûr, devant différentes branches des sciences sociales, sociologues, anthropologues, etc. etc. Je passe. Donc, autrement dit, on en est venu à ce que j'ai toujours espéré, d'ailleurs, c'est-à-dire, au fond, quelque chose qui ressemblerait à un contre-colloque, et en même temps, ce contre-colloque est dans un lieu qui lui-même est un contre-lieu. Donc voilà, j'ai corrigé mon apport en disant que j'allais essayer finalement de vous expliquer les choses, de vous les donner, en quelque sorte, à travers une sorte de biographie scientifique de la question de ce rapport au lieu, donc une sorte de biographie scientifique dans laquelle je passerai les premières étapes, mais je reviendrai quand même les premières étapes. Donc, je l'ai fait, bien entendu, en souvenir de notre premier exposé. Je voulais le faire en trois temps, mais finalement, je crois que je le ferai en quatre temps. Donc, ce sera le... Combien de minutes, là? Non? Ben oui, ah ben voilà. Alors là, les senseurs, toujours les senseurs. Temps 1. Combien, là? Temps 1. Temps 1, c'est... Le temps 1, c'est bifurcation. La bifurcation est le choix de la géographie. Comme vous l'avez dit, je suis donc d'origine historienne, et garrison déjà, etc. Et donc, ce temps 1, donc le choix de la géographie, je vais l'expliquer par rapport à la question qui nous importe. Premièrement, j'ai lâché en partie l'histoire, parce que j'ai toujours quand même cette dimension historique, je l'ai lâché parce que pour moi, il y a ce qui importe quand on devient chercheur, c'est la relation du politique au scientifique, et réciproquement, c'est la relation du scientifique au politique. Et donc, pour moi, la géographie m'est apparue comme une possibilité de rentrer dans ce rapport politique-scientifique à travers justement le présent, l'introduction dans le présent, dans l'actualité, dans le contexte politique dans lequel nous nous exerçons et dans l'évolution de ce contexte politique dans lequel nous exerçons notre métier. Mais il y avait une autre dimension, c'est la relation, parce que pour moi, disons, la géographie, c'est un imaginaire. L'imaginaire de la géographie, pour moi, c'était une discipline qui mettait en relation la géographie physique et la géographie humaine, qui mettait en relation la relation physique et la géographie humaine, qui mettait en relation les relations, ce qu'on a appelé homme-nature, on appelle homme-milieu, on y met des S, on y met des X, mais en tout cas, c'était quelque chose qui me permettait de peut-être d'établir une passerelle entre le milieu physique, la physique des lieux, et finalement, les gens qui l'habitent. Je reviendrai. Donc, c'est voilà le temps 1. Le temps 2, se passe, je vais passer rapidement, dans les temps 2 se passe finalement, au fond, dans le début des Trente Glorieuses et les Trente Glorieuses. Et il se fait avec une hégémonie conceptuelle politique, à la fois de l'espace, de la population et de l'aménagement du territoire. Je passe très vite. Mais finalement, je joue le jeu, comme le garçon de café. Je me dis, bon, pourquoi pas, je suis géographe, je vais essayer de jouer le jeu. On m'a dit dans cette période, beaucoup, évidemment, ville, métropole, urbanisation, on m'a mis beaucoup de termes qui apparemment renvoient à ce rapport, qui est pour moi encore une interrogation, ce rapport homme-lieu, homme-nature, j'en sais rien, pas trop. Et donc, je me dis, bon, je vais le faire, et je suis quand même dans la domination de l'institution, je suis dans la domination de ce que l'on doit faire dans cette époque. Bon, je vous passe, si ça vous intéresse, vous pourrez lire des choses, des articles de cette époque. Et puis finalement, je lutte quand même contre cette hégémonie conceptuelle de l'espace urbain, de l'espace rural, auquel je participe, mais qui effectivement me fait éloigner combien? Eh bien, je sais très bien. Alors là, franchement, ne commence pas à me. Enfin. Mais non, mais c'est le débat que tu dois animer, c'est pas moi. Bon, alors j'ai perdu du temps là. Donc je me rends compte quand même que en fait je suis en train de perdre les choses. Je les perds. C'est-à-dire que avec espace, je perds lieu, je perds milieu naturel. Et ce qui est pire, c'est qu'avec population, avec urbanisation, avec le citadin, les citadins, les ruraux, etc., je perds les gens. Et en particulier, je perds les petits. Je ne sais plus m'intéresser finalement aux gens, aux petites gens, aux gens qui souffrent, aux gens qui sont... Je perds tout ça. Et donc, en un sens, je continue parce que... Effectivement, les relations ville-combat. Je suis toujours intéressée par l'idée de relation, mais je ne sais plus ce que je mets en relation. Est-ce que je mets en relation la ville et la campagne? Est-ce qu'on peut mettre en relation des choses comme ça? Bon. Temps 3, je suis à mi-parcours. Temps 3, effectivement, le temps 3, finalement, il dépend aussi d'un changement de temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier l'irruption des questions environnementales et des questions écologiques, on ne peut pas les nier. Elles ont bouleversé nos façons de faire, y compris dans les sciences sociales, et elles ont effectivement entraîné écologie humaine, écologie sociale, écologie politique et tout ce que vous voulez. Et donc, évidemment, les choses... Et donc, espérance à nouveau, et si je retrouvais finalement le sens de la géographie? C'est-à-dire, est-ce que je pourrais retrouver ce sens? Parce que finalement, devant les nouvelles crises de l'environnement, crise du social, crise économique, crise politique également, devant tout cela, effectivement, peut-être à nouveau, on peut retrouver la possibilité d'explorer la relation homme-milieu, la relation des gens au lieu. Et donc, au lieu d'espace, évidemment, je continuerai à employer le terme et aussi le terme de territoire, mais très vite, la question du concept de lieu, le concept de milieu, devient finalement aussi quelque chose de très fort, et en même temps, de l'autre côté, le concept de gens de peu, comme le dit Sansot, de pauvreté, de précarité, tous ces termes-là, je me dis peut-être qu'il va falloir articuler cette chose-là. Et donc, vite, parce que c'est pourtant très long, ça m'a demandé beaucoup de temps. J'en arrive à deux choses. J'en arrive à une tentative de conceptualisation autour de, dans ce que Denis connaît bien, c'est-à-dire ce concept de mode d'habiter, que j'ai pas le temps de vous montrer le graphique, le concept de mode d'habiter, dans lequel finalement je construis une espèce de couplage, d'un découplage entre milieux qui sont des milieux habités, tous les milieux et tous les lieux sont habités, et un couplage-découplage avec, du coup, les habitants, l'habitant, l'individu habitant, le collectif habitant, sachant que, en fait, tout individu habite tous les lieux. Et réciproquement, autrement dit, tous les lieux sont habités, quels qu'ils soient, que ce soit ici, que ce soit dehors, que ce soit partout où nous sommes, nous habitons les lieux, donc tous les lieux sont habités, et nous habitons tous les lieux. Et donc à partir de ce moment-là, comment commence une espèce de trajectoire, d'itinéraire, dont je vous passe, parce que si ça vous intéresse, ben voilà, mais qui consiste finalement précisément à tenter de relier ce qui est quand même difficilement reliable, c'est-à-dire la matérialité physique des lieux, de tout lieu, ici ce carreau gris-bleu, je ne sais pas dans quelle matière il est fait, et les murs, là c'est plutôt du béton, etc. Donc de relier cette question pour une question, comment je l'habite? Comment nous habitons? C'est-à-dire, est-ce que nous l'habitons avec la conscience, finalement, que nous y mettons notre empreinte, nous y mettons notre main, que collectivement nous y mettons notre marque, et que cette marque, finalement, participe de la crise. Autrement dit, participe effectivement je vais y venir, participe de notre relation, on pourrait presque dire éthique, de notre relation éthique et au lieu que nous devons bon, dont nous devons comprendre la dynamique, dont nous devons comprendre comment il nous affecte et comment on est affecté. Zut, je viens de prononcer le mot. Bon, et d'autre part, les gens, c'est-à-dire comment ils peuvent faire pour habiter bien leur lieu, ou pour habiter, j'aurais pas dû habiter bien, mais pour habiter consciemment leur lieu, et etc. Alors là, à ce point-là, combien ? C'est parfait. C'est parfait. À ce moment-là, j'en viens un tout petit peu à la méthode, aux méthodes. Je vais dire à ce moment-là, simplement, effectivement, je m'oriente de plus en plus ce que j'ai appelé avec mes doctorants, mes étudiants, etc., la pratique du récit de lieu de vie, c'est-à-dire de la biographie des lieux de vie. Et ce récit des lieux de vie, c'est justement, de façon absolument, qui peut être très courte, hein, très courte. Par exemple, je vous donne un exemple d'un moment où je suis dans un taxi, je sors de la ruche, et le taxi, qui est un, je pense, il était un Ivoirien, je pense, il me dit, ah, mais vous sortez du bois ? Ah, alors, bon, je dis, mais non, je ne sors pas du bois, je sors de la ruche. Et alors, il me dit, ah, mais vous savez, parce que ici, je n'arrive pas à vivre, j'ai du mal à vivre. J'ai du mal à vivre parce que ici, c'est tout du macadam. On passe la Concorde, c'est du macadam. Ici, on est tout le temps dans la pierre, on est tout le temps. Moi, heureusement, je reviens tous les jours. Et là, vous savez ce que je fais. Vous savez, tout est différent. Quand je me lave les cheveux, mais ils sont doux. Ils sont doux, mes cheveux, si vous voulez. Alors que ici, quand je me lave les cheveux, je ne suis jamais, j'arrive pas à me laver les cheveux parce que ici, tout est, etc. Et après, il continue à me dire, parce que tout ça, il m'avait vu sortir du bois. Et donc, il continue. À la fin, il me dit, ah, vous savez d'ailleurs, j'aime la nature. Mais pour moi, j'ai appelé ma fille naturelle. Voilà. Donc, ça peut être un flash. Et ça peut être, au contraire, 30 heures, 40 heures, retour sur des entretiens. Voilà, c'est les récits de lieux de vie, si vous voulez. Donc les récits du rapport physique. Alors aussi, alors bon, mais parmi ceux donc que tu connais, Suzelle, il y a du coup, mais parce que moi, à moi toute seule, je ne peux pas faire tous les lieux de vie, y compris quand si je vais en Syrie ou si je vais etc. C'est difficile quand même de Alors, donc, Lucile Grésillon, Sentir Paris, l'odeur des lieux, les Vendrée Lucie, Vivre la ville au naturel, Rouen, etc. Et puis, au fond, j'avais commencé plus tôt à penser à cette histoire de mode d'habiter, j'aurais eu plus d'étudiants, plus de doctorants qui travaillaient sur cette chose-là. Bon, voilà. Comme Denis, c'est pour ça que je l'encourage à toujours continuer, parce que pendant qu'il est en activité, d'aider les plus jeunes à finalement faire beaucoup mieux que nous. Alors, ensuite, j'en suis à où ? C'était 2 minutes, c'est la conclusion. C'est le temps 4. C'est le temps 4. Parce que finalement, que m'a révélé l'idée que, au fond, la discussion avec Denis, la discussion avec cette question d'affect, c'est que je m'étais toujours servi de manière anthropologique, de quelque chose qui était représentation, pratique, le décalage, les représentations, les pratiques, l'idéal, le réel, et je m'étais toujours servi finalement de cette conceptualisation anthropologique fondamentale qui me permettait à la fois de, d'interpréter les récits, de montrer comment on pouvait passer à la fois dans les représentations pratiques avec les décalages à chaque fois, y compris dans les représentations, y compris entre représentations et pratiques, etc. Tout ça, je l'avais. Mais au fond, si on arrive à la question du lieu hospitalier, c'est-à-dire on doit faire à la fois des portraits de gens et des portraits de lieux. Mais dans ces portraits de la question fondamentale est de dire, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un hôte? Qu'est-ce que c'est qu'un hôte et qu'est-ce que c'est qu'un lieu hospitalier? Autrement dit, la relation entre hôte et hospitalier. Et là, je rejoins évidemment, autrement dit, l'habitable qui est plutôt du côté du lieu, l'habitable du côté du lieu renvoie finalement, fondamentalement, à la manière dont les gens sont dans leur rapport au lieu physique et aux autres gens. Donc c'est ça l'hospitalité, c'est une dimension de relation entre le rapport au lieu physique et le rapport aux gens eux-mêmes. Et donc, évidemment, je prendrai à ce moment-là, pour interroger ce lieu, surtout ne pas aller vers l'esthétique, parce que finalement, l'esthétique et le paysage en particulier ont tendance à masquer la difficulté que l'on a à aller au lieu. Pour moi, par exemple, donc, en interdisciplinarité, j'ai préféré passer par le cafard, la relation des gens au cafard, parce que cette relation des gens au cafard, c'est la relation à la fois qui relie la nature et les gens. Quand même, je terminerai. Excuse-moi, mais je suis obligé de terminer. Oui ? Ah non, le cafard, c'est les blattes, évidemment. Comme les odeurs, et comme si j'étais encore... comment travailler sur les lieux ? Travailler toujours sur des oppositions. C'est-à-dire, pour atteindre le rapport à la nature, le rapport au physique, ben voilà, il faut passer par des choses qui sont, comme je dis, le cafard, l'odeur, la mauvaise odeur, les choses qui vous font... Mais j'avais pas pensé ça. C'est-à-dire, j'avais pas pensé que ça pouvait être le dégoût. Finalement, le dégoût, hein, donc l'affect du dégoût est peut-être plus révélateur que l'affect du goût. Autrement dit, c'est cette discussion, hein, finalement, cette discussion, et du coup, aussi pour les gens, c'est-à-dire que, au fond, l'affect pour le désiré et l'affect de l'indésirable, autrement dit, effectivement, on pourrait dire qu'on pourrait passer de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour ce qui est désiré, et on pourrait passer, au contraire, de Calais ou de la Porte de la Chapelle pour le lieu où on confine les indésirables. Voilà. Donc je termine. J'ai oublié une chose.